C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, je te propose de partir à la rencontre d'une elfe. Elle est brune, elle donne une sensation d'intensité bien incarnée. Elle a aussi quelque chose d'un peu lunaire, de nuageux. Elle est amoureuse des arbres, capable de fous rires mémorables. D'abord comédienne, plasticienne et marionnettiste, c'est un ensemble de virages inattendus qui a fait le parcours de notre invitée du jour, Nathalie Léon. Nathalie se dédie aujourd'hui entièrement à l'art de conter avec un riche répertoire de la mer Méditerranée jusqu'au Japon. Pour et avec les vivants d'aujourd'hui, elle poursuit sa recherche qui inscrit les sagesses et le merveilleux du conte dans le monde contemporain. C'est lors de la deuxième édition du festival Héroïne de sept lieux où elle était venue raconter des histoires issues de la tradition juive que Angèle Goduchaud, à la fois programmatrice et complice, l'a interviewée pour nous.
Nathalie Léon, bonjour.
Bonjour. Bonjour Anne-Gaëlle.
Nathalie, tu es à Nantes. Je t'attrape à l'occasion du Festival des Héroïnes. Et toi, ta fonction dans ce festival, c'est de faire tomber la pluie, non?
Je crois, oui.
Tu nous as raconté hier un programme d'histoire qui s'appelle À vos souhaits.
Oui.
C'est quoi?
À vos souhaits, ce sont des contes yiddish. À vos souhaits, c'est une histoire de Singer, de Isaac Bashevis Singer, qui a fait sa version des trois souhaits. Donc, on connaît bien cette histoire des trois souhaits où une fée ou un être magique vous offre trois souhaits. Et en général, on fait un premier souhait idiot, l'autre essaye de le défaire et c'est encore plus idiot. Et le troisième dit que tout redevienne comme avant. Mais dans la version de Singer, c'est assez cosmogonique puisque... La magie vient du ciel et Dieu ouvre le ciel et exauce les vœux. Donc on a les patriarches qui apparaissent.
C'est ça, ces trois enfants sont terrorisés, tétanisés à la vue de ces trois patriarches.
Oui, voilà.
Et tu disais que ces contes, donc ça se passe dans un petit village.
Oui, je le place dans un petit village.
Qui existe ou pas?
Qui a existé, Pinsk. Il y a des tas de petites histoires de Pinsk, de Schminks. Ce sont des villages yiddish qui ont existé, qui n'existent plus, qu'on appelait les shtetl, hein, les petits villages yiddish.
On est quoi? On serait en Pologne?
On est en Pologne, là. On est en Pologne. Donc, ils parlaient le yiddish et ils font partie vraiment des disparus. Hein. Ils n'existent plus, à ma connaissance. Ils ressurgissent soit en Israël, soit à New York, mais en tout cas, ces populations-là de Pologne ont disparu.
Et donc, tu disais hier dans la petite conversation avec avec les gens à la fin du spectacle, tu évoquais ça, le fait que tu racontes assez peu ces histoires. Parce que tu te confrontes à des organisateurs qui disent des contes juifs.
Ouais, c'est assez curieux. C'est assez curieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'une discipline comme le conte, qui a l'air d'être tellement universelle et en même temps, finalement, assez. Pas très dangereuse. Hein. On n'est pas des subversifs, on n'est pas des rebelles, on raconte des histoires. Tout d'un coup, on rentre dans la sphère du politique et des contes juifs, ça finit par être un acte dangereux pour les programmateurs. soit vis-à-vis des habitants de la ville, soit vis-à-vis de leur tutelle, soit de la mairie, etc. Et donc, il commence à devenir frileux sur certains répertoires et je le déplore. Vraiment. Oui,
en disant, si on fait ça, on va être critiqué.
Voilà, soit ils ont peur des réseaux sociaux, parce qu'ils sont sur Facebook et ils ont peur des commentaires des gens. Et que parmi les gens, il y ait des antisémites ou des gens qui, voilà, qui manifestent de façon violente. Soit de leur tutelle qui serait frileuse. Alors, je rencontre ça sur les contes juifs, sur les contes yiddish, mais aussi, par exemple, Heureux malgré tout, donc c'est l'histoire d'un homme heureux en dictature, ce spectacle. Et des programmateurs me disent « Ah oui, mais notre mairie, elle voudrait pas que ça soit un spectacle politique. » Je dis « Mais c'est pas un spectacle politique, de toute façon, un conte, c'est une expérience. On n'est pas en train de dire « Il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. » On raconte une histoire, on raconte une histoire. Donc pourquoi pas raconter une histoire dans un shtetl ? Pourquoi pas raconter une histoire dans une dictature ? Pourquoi pas raconter une histoire qui se passe sur un pétrolier, je ne sais où ? En fait, on raconte des histoires, on est des témoins du temps, on prend pas forcément parti. En tout cas, pour moi, le conteur n'est pas là pour prendre parti, il est là pour partager une expérience. Et c'est comme si on ne pouvait plus partager certaines expériences. Il y a comme une sorte d'omerta sur un certain pan de la réalité qui ne serait plus souhaitable, en tout cas, qui ne pourrait plus être visible. Et je trouve ça terrible. C'est des continents entiers de l'expérience collective qui passent sous l'eau. Vraiment, j'appelle, en fait, voilà, j'ai un micro devant moi, c'est chouette. Donc, j'appelle vraiment les programmateurs à considérer ça et à être conscient qu'il faut sortir ces territoires de l'eau. Il faut raconter l'ensemble de l'expérience collective parce que ça permet de vraiment de manifester toute notre humanité.
Depuis combien de temps ?
Une vingtaine d'années.
Comment t'es arrivée à faire ça ? C'était il y a une vingtaine d'années, c'était évident de devenir conteuse ?
Ah non, pas du tout, non. En fait, je savais même pas que ce métier existait.
Ben oui. Alors, t'es tombée dessus comment ?
Mon grand-père était acteur. Il avait même joué avec Sarah Bernhardt.
Waouh.
Donc, et ma grand-mère aussi, du coup, je voulais être actrice depuis longtemps. J'ai fait tous les cours de théâtre possibles et puis j'ai commencé par le théâtre. Puis j'ai rencontré le jeu Maskine Mouchkine. Mm-hmm. Et puis à un moment donné, j'ai été plutôt vers la plastique parce que j'ai rencontré Rar Stiefel, le facteur de masques de Mouchkine, et j'ai fait des masques pour les compagnies théâtre pendant 5-6 ans. Puis ça a débouché sur de la marionnette.
C'était quand même une grande star, un grand maître du masque.
Ah, c'était un grand maître du masque, ouais. Donc j'ai eu de la chance, enfin, avec cette rencontre. Et c'était passionnant, hein, parce que j'étais un relais. Je ne vais pas raconter maintenant le fait de faire des masques et comment ça se passe avec les acteurs, mais c'est un chouette relais, quoi. Parce qu'on façonne le personnage à deux, quand même, hein, quand on est facteur de masque et que le masque est porté ensuite. Et puis après, ça a débouché sur de la marionnette, mais bon, c'est un peu ma vie qui est comme ça, elle a des virages inattendus, j'anticipais pas la marionnette, mais je me suis retrouvée dedans, pendant 5-6 ans aussi, avec la compagnie du Théâtre Saint-Ouen notamment, et puis des spectacles plus personnels. Et puis, puis vers 34 ans, j'ai une sorte de rupture là, et je suis tombée sur le livre de Gougaud, des Sept plumes de l'aigle, qui m'a tellement plu que j'ai voulu rencontrer l'auteur. Et l'auteur m'a dit, alors que je venais le voir à la fin d'un spectacle, viens à mon atelier. Bon, j'ai suivi le mouvement, me suis dit, tiens, c'est la vie qui me parle, hein, des fois, c'est la vie qui parle. Et de toute façon, tous mes changements de vie, ça a été la vie qui me parlait. Hein. En gros, elle m'a dit, ah, tiens, va là. Je suis allée. Donc, mais là, par contre, je me suis un peu installée, par contre.
Donc, tu es rentrée dans l'atelier de Henri Gougaud.
Oui.
Et tu es restée là
Je suis restée là 4 ans, je dirais. Bon, c'était tous les 15 jours. Petit à petit, je travaillais de plus en plus par ailleurs. C'est vrai que j'étais enceinte, donc j'ai eu un enfant, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de temps. Puisque à ce moment-là, l'intermittence permettait d'avoir qu'un cachet dans l'année. Ce qui fait que j'ai fait mon changement de métier. J'avais déjà des bases sur le spectacle vivant. Mais le conte, c'est très différent. Donc j'ai vraiment eu envie de prendre le temps d'apprendre ce nouveau métier.
Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Parce que tu dis que c'est très différent. Pour plein de gens, en fait, c'est super abstrait, ça. Ça voudrait dire quoi
Super abstrait par rapport au théâtre, par
oui, exemple. Oui. C'est quoi la différence? C'est pas... Tu vois, je sais pas, on pourrait aussi imaginer qu'un conteur, c'est un comédien qui fait un monologue.
Oui, c'est ça qui est justement subtil, en fait, puisque ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez timide et j'aime bien me réfugier derrière quelque chose. Donc j'ai fait du jeu masqué, donc j'étais derrière un masque. Quand on est comédien, on est quand même derrière un personnage, je veux dire. Et quand on est marionnettiste, on est derrière une marionnette. Donc de toute façon, c'était un peu... j'avais besoin de quelque chose devant. Et tout d'un coup, la nudité du conteur est absolument phénoménale, abyssale, je dirais. Comme une espèce de gouffre. Et on y va pas à pas. Je dirais pour moi, le métier de conteur, il est toujours en mouvement. Et on avance peu à peu vers sa nudité.
C'est joli de dire ça comme ça.
Oui. Et c'est pas facile parce que la nudité, c'est la fragilité, c'est l'honnêteté, c'est le reconnaître ses limites, c'est reconnaître son humanité complètement. C'est-à-dire que c'est toi qui viens devant les autres pour raconter une histoire, toi. Dans cette relation vraiment directe. Avec le public, aucun paravent, aucun masque, aucune marionnette, rien du tout.
C'était une nuit sans lune, toute fourmillante d'étoiles, comme une grande nappe céleste. Les deux enfants, Shlomo et Esther, se sont glissés hors de leur petite cabane Ils ont rejoint Moshe, leur voisin, derrière la synagogue. Parce que derrière la synagogue, il y avait un petit tertre d'où on pouvait voir toute la voûte céleste. Or, ce soir-là, ils savaient que Dieu allait ouvrir le ciel et qu'il allait exaucer tous les vœux. Ils se sont mis à attendre. Tranquillement, d'abord. Et puis tout d'un coup, Esther a dit « Hé, c'est pas là que Hormizza, le démon, vient chercher ses sabots, là, juste derrière la synagogue ?»« Hormizza ?» a dit Shlomo. « Celui qui a trois têtes et une queue de lion. »« Mais non, ça c'est Astaroth !» a dit Esther. « Non, non, Hormizza, il est pas comme ça. Il est habillé d'une grande armure et il commande les armées de l'enfer. » « Mais non, dit Moshe, c'est pas ça. Hormizza, c'est un brouillard. On l'entend jamais venir. Mais quand il ouvre la gueule, il peut avaler un homme entier. » Et là, c'était comme si leurs oreilles s'étaient ouvertes d'un coup. Ils entendaient tout. Un clocher au loin, un oiseau dans la broussaille, le rêve du rabbin. Et c'est à ce moment-là que le ciel s'est ouvert. Il a comme craqué. Et puis il s'est élargi en une brèche d'où perçait une lumière intense, douce, pénétrante, ambrée. C'était tellement saisissant. Et ils ont vu une échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient. Ils ont vu le prophète Élie sur son char de feu qui faisait un tour dans le firmament. Et puis ils ont vu apparaître les prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, la tête tout en nuages moussus, qui leur souriaient avec bienveillance. Esther, elle se sentait toute nue sous ses vêtements. Elle savait même plus ce qu'elle voulait demander à Dieu. Elle avait une boule là, sous l'estomac. Alors elle a dit, Shlomo, j'ai faim. J'ai envie d'une crêpe. Et le miracle s'est produit, Dieu l'a entendu. Une crêpe est apparue devant elle dans sa peau de crêpe. Alors Shlomo s'est dit, c'est pas vrai. Elle a pas demandé une crêpe. Elle a demandé une crêpe. Mais c'est pas vrai, mais qu'elle devienne une crêpe elle-même. Et Dieu l'a entendu. À côté de la première crêpe est apparue une autre crêpe, plus petite, joliment dentelée, mais Esther avait disparu. Alors Moshe, il a cru que le ciel lui tombait sur la tête. Depuis tout petit, il était amoureux d'Esther. Alors il a crié « Que tout redevienne comme avant !» Et il était temps. Il était temps parce que déjà le ciel se refermait. Il n'y a plus bientôt qu'un long fil d'or. Et puis, rien. Noir. Rideau. Dieu s'était retranché. Et les trois enfants sont tombés sur leurs pierres. À Pinsk, on n'allait pas se souvenir des tables de la loi, d'une mer qui s'ouvre, d'un buisson qui brûle. Non, à Pinsk, on allait se souvenir de crêpes.
Les trois souhaits. Un extrait du conte « À vos souhaits ». Toujours en compagnie de Nathalie Léon.
Qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu ne te caches pas derrière l'histoire ?
Alors, enfin, pour moi, on ne se cache pas derrière l'histoire. On est canal de l'histoire, ce n'est pas pareil. Mmh. C'est-à-dire que si on se cache derrière l'histoire, il y a un problème. Hein. Mmh. On ne peut pas utiliser l'histoire comme un cache-sexe. c'est pas le but ou un paravent derrière lequel on se déshabille. Non, non, l'histoire, c'est quelque chose qui... Bon, moi, j'adore le conte en tant qu'évocation. Hein. Je veux dire, il y a différents types de conteurs et différents types de relations avec le conteur. J'adore quand je plonge dans un monde et je m'abstrais de l'endroit où je suis, en fait. Hein. C'est vraiment là où je... on passe les limites du temps, on passe les limites de l'espace, et c'est là où se fait la symbiose à l'intérieur de ta matière et de celle du conteur, de ton imaginaire et de celui du conteur, et ça donne quelque chose d'autre, un rêve qui est le tien, et en même temps c'est un rêve collectif partagé par tous ceux qui sont là, et c'est ça que je trouve miraculeux dans le conte. Hein.
Nathalie Léon, interviewée par Anne-Gaëlle Goduchot.
Tu dis, ma manière de raconter, ce que j'aime, c'est l'évocation, mais est-ce que tu as un répertoire privilégié ? Qu'est-ce que c'est que tu travailles, toi ?
Moi, j'ai commencé en allant dans des contes traditionnels. Je dirais que j'aimerais bien peut-être raconter aussi des contes merveilleux que j'ai assez peu racontés, finalement. J'ai des contes traditionnels, mais pas beaucoup, beaucoup de merveilleux. Ce que j'aime bien, moi, j'ai besoin de m'enraciner quelque part. Donc j'ai des spectacles qui se situent soit dans le Maghreb, soit dans un shtetl yiddish, soit dans un village de France, soit au Japon. Dans toute cette période-là, j'avais besoin d'avoir une sorte de cohérence avec la civilisation, une sorte de plongée dans la civilisation concernée. Bon, ça, c'est ma façon. Hein, vraiment,
c'est marrant parce que les spectateurs, hier, ils témoignaient de ça aussi, quand même. Ils disaient, ah, c'est vraiment... C'est vraiment agréable de rentrer dans un monde.
Oui. Oui, dans un monde. C'est un vrai monde, en fait. Un vrai monde. Je vais essayer de préciser. Comme on va dans un endroit que j'ai beaucoup fréquenté, puisque je connais quasiment tous les gens, tous les habitants de ce village, et qui se retrouvent d'un conte à l'autre, on rentre dans un microcosme. Qui finit par être attirant parce qu'on connaît, on connaît tout le monde, en fait. Ça devient un peu des amis, dans Heureux malgré tout, on est dans une dictature, mais je fais un focus sur un immeuble dont on rencontre tous les habitants, étage par étage. Et c'est un petit peu des gens qui vont réagir différemment à la dictature. Mais du coup, on est dans leur intimité, on les connaît.
Et puis, tu parlais hier d'un autre spectacle. Alors là, où tu t'es complètement dans le contemporain, hein, c'est une...
Oui. Donc, depuis une dizaine d'années, j'aime beaucoup raconter aussi le monde contemporain. Alors, il y a plusieurs contemporains. Hein. Il y a des spectacles... Donc, Heureux malgré tout, par exemple, c'est dans les années 60, 70... Daniel Libovitch, c'est dans les années 80. Donc c'est un Paris qu'on connaît, mais qui est plus le Paris tout à fait. C'est plus le même en même temps. Et là, sur la seconde chance de Camélia Huppe, en effet, c'est vraiment le contemporain contemporain. Mais c'est du merveilleux contemporain puisque je raconte, des contes s'invitent en fait. C'est plutôt ça. Des contes s'invitent dans notre décor à nous. Et comment est-ce que les contes peuvent encore s'incarner aujourd'hui ? Est-ce que on fait toujours les conteurs, hein ? Je veux dire, un conte arrivait de loin et les conteurs, ils le faisaient exister dans leur contexte.
Ah oui,
je veux dire, je ne fais absolument rien d'extraordinaire. J'ai rien l'impression. Enfin, voilà. Et j'ai pas l'impression de trahir non plus le conte du tout. Puisqu'il prend des couleurs particulières de notre temps et il croise les expériences directes des gens. Par exemple, la seconde chance de Camélia Huppe, c'est une secrétaire. Je prends une secrétaire qui est un petit peu d'avant, donc qui est inspirée des secrétaires des années 60, donc une sténodactylo un peu à l'ancienne.
Avec qui se retrouve. Pas...
Voilà, c'est ça, des vieilles machines à écrire, machine qui connaît d'ailleurs même pas Internet, ni même les ordinateurs. Et elle se trouve projetée à la Défense, dans un open space. Et il y a des gens qui sont venus me voir en fin de spectacle. Et là, je raconte en fait la lumière bleue. Donc, c'est une sorte de version d'Aladin européenne, mais racontée par les Grimm, hein, notamment. Il y a une version aussi d'Andersen. Et il y a des gens qui sont venus me voir à la fin, genre Camélia Hupp, c'est moi. Voilà, je suis secrétaire, j'ai travaillé à Les Défenses, j'ai reconnu. Voilà, donc il y a un effet de reconnaissance. Il y a un effet de reconnaissance, c'est pas le même ressort que quand on raconte un conte merveilleux qui est dans un lointain passé. Si j'ai envie de faire ça, c'est pas du tout pour actualiser les contes, j'ai pas ça. C'est plutôt que je trouve des graines de merveilleux dans notre monde. Et c'est un peu comme si je ne mettais pas la ligne de démarcation entre le merveilleux, c'était avant, et maintenant on est dans un monde technologique où il n'y a plus rien de merveilleux. J'ai envie de retrouver les graines de merveilleux dans notre monde. C'est plutôt ça que je cherche, en fait. Et dès qu'il y a des portes vers l'invisible, vers les synchronicités étranges, vers un merveilleux qui a toutes les harmoniques dans notre monde aussi, ça permet de faire vibrer ces cordes qui en fait quelque part sont assez porteuses d'espoir, puisque on se dit peut-être qu'il y a une sorte, je crois qu'inconsciemment on a un peu l'impression qu'à l'époque technique, on est un peu dans une espèce de réel hypertrophié où il n'y a plus tellement de place pour l'invisible, pour les fées, pour tout ça. Je me dis, mais en fait, si, tout est là aujourd'hui encore. Et c'est plutôt cette recherche-là, par ailleurs. Mais comment dire, c'est à chaque spectacle, c'est une quête. C'est une quête que je mène moi-même pour essayer de rencontrer ces graines de sagesse, d'espoir, ces portes ouvertes. Dans les contextes que je choisis. Heureux malgré tout, c'est la dictature, quoi. C'est la dictature. Mais il y a des contes qui témoignent de la dictature à d'autres époques, qui trouvent des portes, qui trouvent des subterfuges. Et alors, heureux malgré tout, c'était extraordinaire. J'ai rencontré, donc ça se passe en Roumanie, hein, c'est la dictature roumaine, en fait. Je le dis pas, mais voilà. J'ai passé presque un an en Roumanie, en 92. Et là-bas, j'ai rencontré un homme qui m'a dit: j'étais en France quand Ceausescu est arrivé au pouvoir, donc c'était dans les années 64. Voilà. J'aurais pu rester en France, mais j'ai fait le pari de revenir en Roumanie et de rester heureux. Et là, on est en 92 et je dis que le pari a été tenu. Donc cet homme-là a été le point de départ, évidemment, de ce spectacle qui s'appelle Heureux malgré tout, ou encore heureux, quoi. Donc c'est un homme réel qui m'a expliqué un peu comment il avait réussi à rester heureux en dictature, ce qui paraît une gageure incroyable. Et j'ai rencontré à cette occasion-là des contes de bonheur de différentes civilisations où on témoigne de ça, c'est-à-dire que l'opposé exact du dictateur, c'est celui qui arrive à garder sa liberté intérieure et sa joie intérieure dans un contexte épouvantable, ceux qui sont capables de ça. Ça existe, ça a existé, et moi je le fais exister dans ce contexte-là. Et du coup, il nous paraît, c'est si loin, si proche, en fait. On a une sorte de... Vous voyez, c'est un petit peu comme un kaléidoscope. C'est comme si on voyait en tranches différentes époques qui se mélangent, quoi. Et je crois, d'après les spectateurs, que c'est assez pertinent.
Elle part avec son petit sac tout plat, dans le labyrinthe de glace, direction son quartier, quartier du camarade modèle. Bloc 4. Elle habite le bloc 4. C'est simple, le bloc 4, il est entre le bloc 3 et le bloc 5. On ne peut pas se tromper. C'est à côté de la benne. Tous les blocs sont pareils. Des carrés de béton cru, hein, ça on ne peut pas dire, honnête, sans torchis, sans rien du tout. Des fenêtres carrées, des petits trous au niveau des escaliers, comme si l'immeuble avait besoin de respirer. Elle rentre. Et à l'intérieur, tout de suite, lui vient l'odeur. C'est toujours la même odeur. C'est une odeur à la fois de poussière, de rance et de chou. Vous voyez, mais un vieux chou. Un chou qui aurait été décuisiné il y a longtemps et l'odeur, elle reste là, à vieillir dans l'escalier. l'ascenseur est en panne, c'est normal, c'est presque un trompe-l'œil cet ascenseur. Tant pis, tant mieux, elle habite au rez-de-chaussée. Elle rentre chez elle. Elle enlève son bonnet, son foulard, son filet de tête, ses moufles, ses gants, ses mitaines, son manteau, son parka, son gilet. Et Olga apparaît. C'est une belle femme. Plantureuse. Des belles épaules rondes, des seins épanouis, un ventre bombé, des hanches étroites, des jambes maigres et des pieds minuscules. C'est un corps qui était enthousiaste au départ, mais il n'a pas cru jusqu'au bout. Elle rentre dans son salon. Alors, c'est le type de salon où à peine on est entré, on a envie de sortir. C'est surchargé de meubles, tous en formica marron, avec des bibelots qui montent les uns sur les autres jusqu'au plafond. Puis alors, au milieu de tout ça, son mari, Raoul. Il est petit, coincé contre la coudoir avec son pull jacquard. On a même l'impression que le motif se poursuit sur son visage. Elle lui dit, Raoul, Raoul, on m'a pris mon cache-cavale, Raoul, ils me l'ont pris, les rats, les rats, les rats. Elle attrape une bande à vielle et elle se met à taper sur le canapé en faisant les rats, les rats, les rats. Et par la physique des ressorts, ça fait sauter son petit mari au bout. Il dit, arrête, Olga, arrête. Ah mais à quoi bon, Olga, à quoi bon? Ça te fait du mal. Je t'assure, ça te fait du mal. Puis, est-ce que ça te le rendra, ce fromage? Bon, il se lève. Il va allumer la télé, créer une diversion. Scratch. Étoile. Ligne. Youp. Image. Apparaît un homme, plein écran. Visage carré. Mâchoire proéminente. Paupières lourdes. Tête dans le cou. Bardée de médailles. C'est le nouveau chef du gouvernement. Il vient de remplacer le suprême à la tête du pays. Lui, c'est le fondamental. Il est dans un décor de grand restaurant avec devant lui une vaisselle d'argent, des verres en cristal. Il a décidé d'offrir pour Noël à son peuple un festin visuel. Et justement, le majordome amène l'entrée du cache-cavale pané. Et Raoul lui dit, regarde Olga, regarde ton cache-cavale, il est à la télévision. Non, Olga, non, non, non. Paf. Scratch, étoile, noir.
Un extrait de Heureux malgré tout, où il est question de savoir goûter le bonheur en toutes circonstances.
On a évoqué un peu ton répertoire, en tout cas ce qui te tient à cœur. Y a deux autres choses que j'ai repérées qui te tiennent à cœur. Une, je ne sais pas si on va l'évoquer, on pourrait d'ailleurs, parce que c'est les arbres, quand
oui,
même.
Oui.
N'empêche que vous êtes en train de travailler, vous êtes un groupe de conteurs en train de travailler là-dessus.
Oui, 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 tout à fait. C'est avec l'association À la lueur des contes, qui se situe en Franche-Comté, à Montbéliard, enfin, à Valentinier maintenant, avec la Maison des Contes en Est. Donc, Mapi Caburet, qui en est la directrice artistique, a réuni 6 conteurs dans son association, 6 conteurs professionnels, dont je vais les nommer, hein, Gaëtan Gouget, Emmanuel Philippiane, Mapi Caburet, évidemment,
François
Godard et Julien Taubert, et moi. Et on a décidé de faire un spectacle collectif, parce que c'est vrai qu'on est des fois des conteurs dans un collectif et on ne se rencontre pas.
Et oui, parce que vous êtes dans des endroits, vous habitez chacun dans des endroits très différents.
On est un peu dispersés partout en France. Et pour faire ce travail collectif, on a décidé de travailler sur l'arbre, puisqu'on est tous assez branchés sur les arbres, on est tous dans un sentiment que la planète arbre est menacée et qu'il faut restaurer toutes les histoires d'arbre monde et toutes les histoires qui mettent l'arbre en scène, en fait. Voilà, donc on a commencé ce travail-là depuis un an à peu près.
Donc vous rassemblez des histoires de partout.
Alors déjà, on s'est mis au diapason. Mmh. Et alors au début, on racontait Yggdrasil ou telle histoire d'arbre-monde ou autre. Et puis on a senti qu'il valait mieux laisser monter un arbre-monde à nous. Mmh. Donc on a improvisé collectivement notre arbre-monde. Mmh. Et qui va être la structure, l'histoire cadre du spectacle. Ça va être un spectacle, alors soit à 6, soit ça pourrait être à 2, à géométrie variable évidemment. Mmh. Et on espère que voilà, cette parole porteuse d'espoir pour les arbres pourrait être semée un petit peu partout et contribuer au combat pour les arbres, évidemment. Mmh. C'est-à-dire que les arbres, c'est tellement fondamental que dans toutes les mythologies, ils sont au centre, ils sont sacrés. La plupart du temps, on ne coupe pas un arbre comme ça. On ne coupe même pas une fleur comme ça. Mmh. Dans le monde traditionnel, on explique à la fleur pourquoi on va la couper, et en général, il y a besoin d'une raison. Même dans notre civilisation à nous, hein, on explique à la fleur qu'on va la couper pour soigner telle maladie ou pour faire ça. Et donc,
on faisait ça. T'as trouvé des traces de ça chez nous aussi?
Ah oui, oui. Tiens, c'est l'occasion de raconter les caves-contes. J'organise à Paris des caves-contes, des rencontres autour des histoires sur thématiques. Mmh. Et une fois, j'ai proposé.
Dans un café.
Dans un café, donc c'est fait pour que n'importe qui puisse venir, justement, dans un endroit public. Ce qui fait qu'on croise à la fois des conteurs, professionnels ou pas, et puis des gens qui voyaient de la lumière, qui sont rentrés. Mmh. Et donc, il ne s'agit pas de raconter des histoires, il s'agit que tout le monde témoigne, soit d'une expérience, soit de son ressenti par rapport à un symbole, un motif. Et donc, il y avait un cave-conte autour des plantes. Mmh. Puis, il y a une dame qui dit... Ma grand-mère, une fois, je ramenais un bouquet de fleurs parce que j'avais fait une promenade dans la campagne. Et ma grand-mère m'a grondée. Elle m'a passé vraiment un savon. Oh, j'étais très blessée. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle m'a grondée comme ça. Bon, on avait ce témoignage. Puis, on a réfléchi un peu. Enfin, voilà, les autres ont parlé. Et puis, c'est venu que... La grand-mère, elle participait encore d'un monde où on ne cueillait pas les fleurs pour faire des bouquets d'ornements. On cueillait les fleurs parce qu'il y avait une destination nécessaire qui expliquait qu'on est privé de vie une fleur. Et en cherchant, par le miracle de ces caves-contes, il se trouve qu'on est tous des experts, finalement. Ça qui est magnifique dans les caves-contes, c'est qu'il n'y a pas la parole révélée de quelqu'un.
C'est vachement intéressant.
Il n'y a pas l'expert qui est là pour nous expliquer les fleurs. Ouais. C'est toutes les expériences qui se croisent et qui finissent par arriver à une certaine justesse, une certaine profondeur. Et il y avait quelqu'un qui nous a dit, mais... C'est d'ailleurs dans le petit Albert et le grand Albert, on ne cueille pas les fleurs impunément dans le monde traditionnel. Et en faisant des recherches là-dessus, on s'est rendu compte que effectivement, il y a c'est soit pour des destinations magiques, soit de soins, mais à chaque fois, la fleur participe et du coup, elle accepte de mourir. Et ça, je pense que c'est une chose très importante dans le monde traditionnel, que ça soit les fleurs, les arbres ou les animaux. Si on leur explique la destination pour laquelle ils donnent leur vie, ils acceptent en quelque sorte de nous donner leur vie. Et du coup, on participe à quelque chose de beaucoup plus vaste.
Dans ce cas-là, on n'est pas des voleurs. Mais...
On n'est pas des voleurs. On a respecté la vie. Et du coup, elle nous est restituée d'une autre manière. Au commencement des temps, Dieu a créé les arbres et il les a faits nus. Mais les arbres ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils vivaient heureux avec leurs troncs et leurs branches qui craquaient dans le vent, le long d'un hiver éternel. Mais un jour, un beau jour, Dieu a créé le premier printemps du monde. Il ressemblait à un marché, un immense marché de fripes. Sur les prairies, Dieu avait disposé des habits pour les arbres, des feuilles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les textures.
La vigne est arrivée la première, la courte sur patte, et elle a pris de belles feuilles pour cacher ses petits raisins. Les saules l'ont suivi, débonnaires, et ils ont été heureux de trouver des lianes, comme des larges manches dans le vent. Les bouleaux blancs se sont pressés, délicats comme des demoiselles, et ils se sont vêtus d'un voile de feuilles fines et légères, qui bruissent dans la brise et bissent dans la bise. Le chêne est arrivé tranquillement avec un air de docteur et il a choisi un habit de feuilles festonnées. Le figuier suivait. Lui se trouvait un peu nain, alors il a été heureux de trouver des belles palmes pour compenser sa taille. Des montagnes sont descendus les pins et ses amis épicéas, sapins, querelleurs. Ils se sont lancés des pics qui se sont fichés pour toujours dans leurs branches. C'était un joyeux tohu-bohu dans le premier printemps fripier du monde. Le frêne manquait, il dormait. Alors tous les arbres ont levé haut les branches et se sont mis à bruisser. Étonné, le frêne a découvert ses voisins avec des manteaux superbes. Il s'est avancé, mais il n'y avait plus de file d'attente. Il n'y avait même plus rien. Il n'a trouvé qu'une espèce de tissu déchiqueté. Quand il l'a enfilé, tous les arbres ont sifflé. S'il est habillé, il a l'air nu. S'il est nu, il a l'air habillé. Avec toutes leurs feuilles, c'est facile de persifler. Alors que le frêne, lui, il pouvait même pas répondre avec son feuillage à trous. Le frêne, honteux de sa parure, s'en débarrasse le premier à l'automne. Et au printemps, il dort et se réveille trop tard. C'est ainsi que le frêne est le premier à se dévêtir et le dernier à s'habiller.
Les vêtements des arbres avec la conteuse Nathalie Léon. J'ai découvert un jour que les contes sont des êtres fragiles, enfants de parents inconnus, qui cherchent des corps chauds, vie après vie, pour s'incarner. La question de ma place ne s'est plus posée. J'ai reçu un conte dans mes bras et je suis devenue nourrice. Voilà comment Nathalie Léon aime raconter sa relation aux contes.
Nathalie, il y a un autre sujet dont on a parlé un certain nombre de fois, puis je pense qu'on n'a pas fini, qui est le sujet du féminin dans les contes. Avec l'idée qu'il y a en ce moment tout un mouvement féministe qui quelquefois n'y connaît pas grand-chose aux contes et qui dit... On peut plus raconter ça, on peut quand même pas raconter. Il était une fois une princesse qui s'endort et qui va dormir pendant 100 ans, pendant que. Et il va falloir qu'il y ait un prince qui vienne la réveiller. Non mais on devrait interdire de raconter Podane, on devrait pas raconter ça, c'est pas possible.
Alors si on prend par exemple effectivement La Belle Endormie, ce conte, justement, je l'ai traité aussi en Cafconte et les réactions étaient très intéressantes. Il y avait des psychologues qui disaient que il y avait une sorte de sommeil féminin pendant l'adolescence, par exemple. Il y avait beaucoup de témoignages sur le sommeil, sur les explications par rapport à ça. Il faut bien distinguer femme et féminin dans les contes traditionnels, vraiment les distinguer. Le féminin. Ça peut être, par exemple, la jeune princesse qui est enfermée dans une tour Bon, je vais prendre cet exemple, comme ça je ne vais pas être dans une polémique directe. Prendre cet exemple, une jeune femme, une princesse qui est enfermée dans une tour, et on nous dit, ah voilà, c'est la princesse qui est enfermée dans une tour, et évidemment, c'est le chevalier qui a tout à faire. Et elle, elle ne fait rien, elle est dans sa tour. Alors déjà, est-ce qu'elle fait rien dans sa tour? Et si moi, par exemple, je considère que c'est un féminin sacré qui est là, dans la tour, je peux faire résonner ce personnage, je peux le déployer de façon beaucoup plus forte que simplement c'est une princesse dans sa tour. C'est à moi, conteur, conteuse, de dilater ce motif-là comme étant une sorte d'âme, par exemple, qui serait dans la tour et qu'il faudrait absolument soigner, cajoler, entretenir. C'est peut-être la petite flamme de la vie qui est là dans la tour et qui est fondamentale. Parce que si elle s'éteint, cette petite flamme, il n'y a plus rien. Hein? Alors, pourquoi est-ce que, notamment, des qualités qui existent dans les contes comme la patience, l'incroyable patience et la ténacité de la jeune sœur dans les six cygnes, par exemple, ah oui. Qui va faire toutes les chemises. C'est absolument héroïque. Wow. On a des personnages féminins extraordinaires, mais simplement, on a l'impression que ces valeurs-là sont moins intéressantes que des valeurs de combat, de plus masculines finalement. Mais moi, je trouve que c'est les valeurs féminines qu'il faudrait peut-être remettre à leur juste place, et se dire que tenir, des fois, dans certaines circonstances, avoir cette espèce de ténacité, de patience, d'honnêteté, de fidélité. Enfin, il y a tout un tas d'héroïnes.
C'est une patience qui dure des années.
Qui dure des
pendant
années.
Pendant tout un temps, elle ne peut même pas dire.
Et on menace de la tuer et elle ne parle encore pas. Il y a des héroïnes féminines extraordinaires. Celles qui sont dans les tours, elles sont aussi tout autant extraordinaires. Les dames dans l'univers courtois, par exemple, c'était effectivement des dames qui représentait aussi la spiritualité. Hein. Donc, il y a le féminin sacré qu'on peut encore servir en tant que conteur, conteuse. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est prenons les contes merveilleux, surtout les contes merveilleux, avec infiniment de délicatesse. Évidemment, ils nous disent des choses, aussi sur nous, femmes, hein, et en prenant la conscience qu'on est à la fois le personnage féminin et le personnage masculin de l'histoire, tous, qu'on soit femme ou homme. Je veux dire, on est à la fois la belle endormie et à la fois le prince qui vient la conquérir. Tous. C'est-à-dire que le conte est un microcosme où les notions sont beaucoup plus symboliques et moins, à premier degré, à l'emporte-pièce. Et je trouve que dans ce moment où c'est très très important, et je suis vraiment évidemment complètement avec le mouvement de libération des femmes dans tous les endroits où c'est nécessaire qu'elles soient libérées, respectées, que ça soit dans les délits, dans les etc. Et là, c'est évidemment, je suis partie prenante à 300%. Autant dans l'univers symbolique, je pense que c'est important de capter les harmoniques de toutes les civilisations, même celles qui nous paraissent machistes.
Cet imbécile, cet empaffé, ce ridicule, ce borné, cet ostrogo, ce pauvre idiot, ce franc cornard, cet âne batté, Midas le roi de la bêtise, couronné d'oreilles d'âne grise, Midas, Midas. Il avait sauvé un satyre, Dionysos en était ravi, il lui a demandé de dire un vœu qui lui ferait envie. Sans réfléchir, sans hésiter, Midas répond tout excité, que tout ce que je touche devienne or, que tout ce que j'effleure se dore d'un doigt. Il change en or, statue, armure, ou bien épée, vaisselle et meuble d'or. Tout devient luxe, gloire et beauté. Heureux, il saisit une poire, mais il s'y casse la mâchoire. Son épouse veut le consoler,
en statue d'or, elle est changée. Cet imbécile, cet empaffé, ce ridicule, ce borné, cet ostrogoth, ce pauvre idiot, ce franc cornard, cet âne batté. L'Hormidas, c'est trop voyant, aujourd'hui on préfère l'argent. Midas. Midas.
Midas, chanté par Nathalie Léon.
Fabriquer l'or au bout du doigt, faut être crétin pour faire ça.
Mais effectivement, il y a une posture très féminine, je pense, dans le fait de compter. Parce qu'on n'est jamais si bon que quand on est concave, que quand on est dans la réceptivité, que quand on est dans l'accueil, quand on est dans, quelque part, le recul par rapport à soi. Quand, quelque part, on s'oublie, on n'est jamais si présent qu'à ce moment-là, et si canal, et si porteur d'invisibilité, quelque part. Donc, effectivement, cette posture me semble très féminine, dans le sens ancien, hein, enfin dans le sens, on va dire, ontologique du féminin. Je trouve que y a, chez les conteurs, il y a beaucoup de féminin,
oui.
Souvent. En tout cas, je suis touchée par nos confrères conteurs qui, je trouve, sont assez équilibrés. Et d'ailleurs, les conteuses aussi. Enfin, je veux dire. Et j'ai l'impression que cette discipline est rééquilibrante au niveau de nos deux aspects féminin-masculin. Forcément, on endosse autant les personnages féminins que masculins. On endosse autant les postures féminines que masculines. Et si le conteur est en réceptivité, il est aussi en action puisqu'il raconte. Hein, et tout se déroule à l'intérieur de lui et va vers le public. Donc, en fonction des conteurs, on est peut-être plus dans une polarité féminine ou masculine. Mais il y a quelque chose d'une clé là, d'un équilibre entre les deux, puisque c'est quand même cet équilibre-là. Il faut retrouver notre féminin avec toutes ses valeurs, c'est clair, parce qu'il a été piétiné. Il a été piétiné, il a été foulé aux pieds, et c'est sans doute ça qui nous amène dans quelque chose d'hyper combatif, hyper hiérarchique.
Oui, et puis concurrentiel.
Concurrentiel. Et donc, il faut vraiment rééquilibrer, mais avec vraiment les valeurs du féminin.
Et au 9, habitait un certain Giuseppe Paoli. Ce jour-là, il a enfilé sa veste, il a noué sa cravate, il est sorti et il a vu le bouquet. Et tout de suite, il a compris. La marguerite, c'est la veuve. Le lys, c'est la clé. L'œillet, c'est la mort. Et la fougère, c'est Gérard. Il a pris le bouquet, il a descendu les escaliers et il est entré dans le café d'en face. Il a posé le bouquet sur le comptoir et il a dit au serveur « Tu diras à Gérard qu'il y a une commission pour lui, il comprendra. » Et il est parti. Un peu plus tard, Gérard est arrivé. Le serveur lui a montré le bouquet et là, Gérard a pâli. Il a pâli parce que la marguerite, c'est la veuve. Le lys, c'est la clé. L'œillet, la mort. Et la fougère, c'est lui. Alors il a pris le bouquet, il est sorti. Il a regardé autour de lui. Il a pris la rue d'en face. Il a tourné un petit moment dans le quartier. Et puis, il s'est engouffré dans l'église Saint-Antoine, Saint-Antoine de Padoue. Il est allé droit au saint. Il a dit Saint-Antoine, c'est donnant, donnant. Il a laissé le bouquet. Il a mis un bifton dans le tronc. Et il est sorti. Un peu rassuré. Une petite vieille était là qui priait et elle priait très fort parce que quand elle s'était réveillée ce matin-là, on lui avait volé son sac plastique. Son sac plastique où elle avait toutes ses économies, toutes ses affaires. Et quand elle a relevé la tête, elle a vu ce magnifique bouquet. Oh, merci Saint-Antoine. Elle l'a pris et elle est allée chez le fleuriste de la place d'Aligre. L'homme a bien voulu reprendre son bouquet et lui a donné en échange la valeur d'une pizza Regina. Oh, oh, la vieille était contente. Merci Saint-Antoine. De son côté, Nina avait fini de faire tous les aménagements dans sa chambre de bonne. Et puis elle avait tout mis en double. Deux oreillers, deux fourchettes, deux couteaux, deux paillassons, bon, coupés en deux parce qu'il n'y avait pas la place. Et il manquait une petite touche de couleur. Puis un peu de parfum, alors elle s'est dit des fleurs. Elle est descendue et elle s'est rendue place d'Aligre, chez le fleuriste. Et là, en vitrine, elle a vu un bouquet. Oh, elle s'est dit, c'est pour moi ce bouquet. La marguerite, c'est blanc. Le lys, jaune. Le hyet, rouge. Ce sont mes couleurs. Elle allait rentrer dans le magasin, mais elle a vu dans la vitre un reflet. Le reflet d'un jeune homme sur le trottoir d'en face. Pas mal. Et puis, c'était un artisan du faubourg. Il avait la blouse bleue des hommes de son clan. Il a traversé. Il s'est arrêté à sa hauteur. Il la regardait intensément. Et il a dit « T'as osé revendre mon bouquet ? Ah, je te préviens, c'est fini. Je ferai plus jamais confiance aux femmes. » Il est parti. Et Nina, elle s'est dit « C'est de mieux en mieux. » C'était même pas commencé. Puis, c'est déjà fini.
C'est pas pour dire le bouquet de Nathalie Léon.
Est-ce que c'est juste un truc pour se consoler
Non, ben, l'imaginaire, enfin, je trouve que le, on va dire le conte, hein, le récit, nous mobilise tout de notre personne. Il mobilise à la fois l'intelligence, même le cartésianisme, hein, puisqu'il y a une logique dans les histoires. Il mobilise la partie complètement intuitive de notre il mobilise notre corps puisque c'est profondément sensoriel. Donc en fait, à l'intérieur d'un récit symbolique ou d'un conte, on a absolument tous les aspects de nous-mêmes.
De l'expérience, ouais.
De l'expérience, de la sagesse, etc. Donc se relier à notre imaginaire, se relier aux histoires, c'est être profondément tout ce qu'on est, en fait. Et quand on n'est qu'une part, et quand tu sais, par exemple, on va calculer, ou prévoir, ou machin, et toute la journée comme ça, et qu'on n'ouvre pas du tout la porte aux aspects symboliques de notre personnalité imaginaire, on vit quand même dans un espace atrophié de
notre... Donc on parle d'atrophie, là.
On parle d'atrophie. De la même façon, si on n'a plus de nature autour de nous et qu'on n'est plus dans « je respire une fleur », je fais attention à mon odorat, je fais attention au vent sur ma peau, je fais attention à la luminosité, à tout ce qui m'arrive de par mes sens, au goût des choses, on est atrophié aussi. Hein. On vit où ? On vit sur une toute petite parcelle qui n'est que dans la... dans la partie, on va dire, mécanique de notre pensée. Voilà. Donc nous, on essaye en tant que conteur d'apporter de la joie aux gens, d'apporter ces moments, un peu comme le rabbin dans le camp de concentration qui, avec les détenus autour, leur dit « Il était une fois, c'était il y a très longtemps,
un jardin merveilleux. Et là, pendant un moment, ils y sont, dans ce jardin merveilleux. C'est ça qu'on apporte, et c'est de la joie.
Bon. Merci.
Merci beaucoup. Merci à toi.
Notre voyage avec notre invitée Nathalie Léon se termine ici. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.cestpaspourdire.fr. Nous envoyer des commentaires et des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles histoires.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile. I still have a dream.